concerne les semences et les différentes choses.
Cocopélie, graines de résistance. Clotilde de Gatine, Guillaume Baldi.
Cocopélie vous offre les semences qui se trouvent là. On vous demande de respecter quelques consignes de manière à ce qu'on puisse gérer à la fois les gens qui arrivent et les stocks. Ça consiste à respecter le principe suivant, c'est entre 3 et 5 sachets maximum par personne. On vous demande de respecter ça et d'espèces différentes pour éviter que vous embarquiez 5 sachets de haricots et que nos haricots disparaissent d'un coup. Donc les semences sont gratuites, elles vous sont offertes par Cocopélie et le réseau des paramarènes qui les ont produites. Alors n'écrasez pas vos voisins, vous avez le temps. Et pour que vous puissiez vous y retrouver, on a essayé de mettre en place les choses par ordre alphabétique. Le A étant côté rivière. Donc si vous voulez des carottes, c'est là. Si vous voulez des ignats, c'est là. Voilà.
Merci.
Merci de votre collaboration.
Le Cocopélie est un drôle de personnage, issu d'une légende amérindienne. Symbole poétique de fertilité, il dissimule un sac de graines sous une fausse bosse. Il les sème en marchant et joue de la flûte pour fertiliser la terre. Depuis 1999, l'association Cocopélie commercialise 1500 variétés de graines potagères qui sont libres et reproductibles, contrairement aux graines que l'on trouve en général dans le commerce, qui sont des hybrides F1 programmés pour donner beaucoup de fruits, mais qui seront stériles et obligeront l'agriculteur à racheter chaque année ses graines. L'activité de Cocopélie n'est pas légale parce qu'en principe, les semences doivent être homologuées par l'État et inscrites dans un catalogue du GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences. Il en coûte 200 euros par an et par variété. Impossible quand l'association conserve 4500 variétés anciennes appartenant au patrimoine commun. Fer de lance des semenciers artisanaux en France et en Europe, Cocopélie a été attaqué dans plusieurs procès. Le 9 septembre 2014, la Cour d'appel de Nancy a condamné les deux parties opposées, Cocopélie et Beaumont, à 5000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement. Mais la justice ne se prononce pas sur le fond, la légalité du commerce des semences anciennes. On s'est garé devant le camion, ça ira ?
Ouais, c'est bon.
Ouais. Pas de soucis. On tient le camion en otage.
Il ne bougera pas.
Ok.
Vous l'avez trouvé facilement, ça ?
Ouais, sans problème, bah, c'est juste à la sortie du village, en fait. On peut commencer par la visite ?
Ouais, pas de
ouais,
soucis.
Très bien.
Moi, je suis Ananda Guillet, donc je suis le fils de Dominique Guillet, donc le président fondateur de l'association Cocopélie. On est en Ariège, donc là, il fait beau aujourd'hui, c'est parfait. Donc on est en Ariège, on est dans un petit village qui s'appelle le Mazazine, et donc où on vient d'installer les locaux de Cocopélie, là, il y a à peine un an de ça, en fait. Ici, en fait, on prépare tous les colis. Donc c'est ici qu'on a toute la collection, toute notre diversité de la gamme boutique. Donc là, c'est tout trié par ordre alphabétique et on doit avoir 1700 variétés, je crois, à peu près, donc qui doivent se trouver là sur les étagères. Donc toutes ces variétés sont libres de droit, reproductibles, évidemment. On n'a aucun hybride F1, aucun OGM. Et tout est certifié en agriculture biologique.
Donc là, on a des petits paquets, en fait, dans des petits box avec les noms en latin et les origines, c'est ça ? Des fleurs et des légumes.
Voilà, exactement. En fait, on a quasiment que des plantes potagères. Donc, on a quelques fleurs, quelques aromatiques, quelques plantes médicinales aussi. Donc, voilà, c'est conditionné en petits sachets. On travaille quasiment qu'avec les jardiniers amateurs, avec certains petits maraîchers aussi. Mais voilà, c'est surtout les jardiniers amateurs. Donc, c'est vraiment du petit packaging avec toutes les infos dessus, les semis, effectivement, le nom latin, leur origine, etc., quoi. Donc en pleine saison ici, en mars-avril, on a 5-6 personnes ici qui préparent les colis. Et on a quasiment 400 colis qui partent tous les jours de la boutique. Donc et ça, c'est en plus de tous les foires salons bio qu'on fait partout en France. Voilà. Ben, on est une association à but non lucratif. On est à peu près 14 CDI, je crois, donc à l'année. 14 personnes à plein temps et en saison, on va jusqu'à 26. 25-26, donc en saison, c'est une petite ruche ici, ça brasse beaucoup, quoi. C'est beaucoup moins calme que maintenant. Donc ça, c'est la gamme collection, en fait, juste ici, on est passé devant, c'est la gamme qui est produite par nos jardiniers, par un marraine, nos adhérents. Donc la gamme boutique que vous avez vue là, qui est juste derrière, c'est des producteurs professionnels qui la maintiennent. Et la gamme collection est produite uniquement par des amateurs, des passionnés de production de semences.
Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous pouvez me décrire?
Moi, j'ai ensaché les pluies des champs. J'ai mis 150 graines dans un sachet. Maintenant, je les colle, je les ferme. Et je les mets en boutique, les sachets.
Et vous avez compté les 150 graines exactement?
Oui, pour avoir une bonne mesure. Et après, je cherche la cuillère qui est adéquate à ces 150 graines.
Et vous faites la même chose pour type de...
Alors moi c'est du tournesol, donc voilà, je fais pareil, je vérifie les sachets, parce que des fois voilà, il y a des petites erreurs. Et puis après je fais pareil, je regarde sur le sachet quel nombre de graines il va falloir que je mette dedans. Donc je compte aussi une première fois, je cherche une cuillère et voilà. Et après je fais toute la série de sachets qui a été imprimée.
Là en fait c'est là qu'on gère, là c'est pareil, il n'y a plus grand chose et c'est un peu le bazar, mais ça c'est toutes les graines de Semences sans frontières. Donc Semences sans frontières, c'est la campagne de Cocopelli qui via laquelle on distribue des centaines de colis, de kilos même de semences partout dans les pays les plus pauvres via des ONG, via des associations partenaires. Donc en fait on a des colis types comme ça. Et donc quand on nous envoie un dossier d'appel à soutien en fait, et donc on envoie ce colis avec environ 150 à 200 variétés différentes.
Donc là je vois de l'aneth, de l'œillet d'Inde, voilà, des tournesols.
On a de tout, là elle a terminé par les fleurs en faisant le colis, donc ouais. Si on va au fond, voilà, on va trouver courge maxima, candy roaster, du sorgho, quinoa, etc.
Et ça, ça part où du coup?
Alors là, ce colis, il n'a pas encore, il n'est pas encore destiné à un lieu précis. C'est vraiment les colis types. Mais donc, là, Charlotte est absente aujourd'hui, donc c'est elle qui gère ce secteur aussi en même temps que le parrainage. Donc, en fait, on va avoir un dossier qui va nous revenir avec un projet qui nous est soumis, qui nous est expliqué. Et si le projet et en résonance avec la dynamique de Semences sans frontières, parce que le but c'est pas d'envoyer une fois de la semence, c'est vraiment de pousser les communautés rurales des pays les plus pauvres à devenir autonomes. Donc avec, en fait, si on regarde en dessous, on a toute une pile de fiches techniques triées par espèce. Donc pour chaque espèce qu'il y a dans le colis, il y a la fiche technique correspondante qui va leur expliquer comment cultiver cette espèce, cette variété, et surtout comment refaire la semence en conservant la variété pure, etc. Donc le but, c'est vraiment de pousser à l'autonomie semencière des populations. Enfin, c'est pour ça qu'on existe, en fait. Hein.
Bourse aux semences, le 4 mai 2014. Au Mas d'Asile.
Sachant que on a les tomates au bout. Alors, tomate rouge, tomate jaune, tomate orange, tomate verte, tomate noire, tomate blanche.
C'est votre plus grand succès, les tomates?
C'est un des grands succès, ouais.
Vous êtes connu pour ça, en tout cas.
Oui, entre autres. Ouais, mais les tomates, effectivement, ça, il y a une demande formidable, et puis elles sont tellement bonnes que les gens reviennent.
Alors. Alphabétique.
Plus ou moins, non mais là c'est...
Tomate, tournesol.
Attendez, on va terminer, si vous permettez, la mise en place, parce que c'est pas tout à fait prêt.
D'accord.
D'ici une heure, vous pouvez revenir et...
On sera parti.
Je peux mettre...
Pour ça, jette un coup d'œil en partant.
Bigarret, ici.
Ok, on va mettre les rouges...
Bigarret, jaune
rouge,
et rouge.
Ouais, parfait, voilà. Rouge.
On a une fortune ici de semences.
Ah bah, chaque fois que vous semez une graine de maïs, par exemple, un grain de maïs, vous allez produire un plant qui potentiellement peut avoir 2, 3, 4 épis, et chaque épi aura jusqu'à 600 grains. Donc le calcul est vite fait. Hein.
peut multiplier ça par X grains, et puis on voit bien qu'il y a une production extraordinaire de diversité, mais aussi une production de ressources de vie, puisque tout ça, on va pouvoir le manger, le partager, mais pas spéculer dessus, surtout.
Alors, je vois sur votre badge que vous faites partie de Cocopelli Suisse.
Oui, je m'appelle Joël Voigneau, et je dirige l'antenne suisse de Cocopelli. Et puis ben là, on donne un coup de main parce qu'il y a du boulot.
Ouais, ouais.
Alors, radis noir rond.
Radis noir rond.
Chair blanche.
Oui.
Alors, je vois que vous échangez des graines.
Oui. Voilà. C'est le principe chez Cocopelli. Alors, nous vivons dans le Gers et vous vivez à côté de...
banlieue toulousaine.
Dans la banlieue toulousaine, voilà. Et sur Garonne. Donc alors, ici on a du radis noir, rond, ici on a du chou romanesco, vous voyez ce que c'est, pointu. Ici, graines de moutarde, très bien pour les abeilles, au moment où elles vont aller polliniser au printemps. Ici, fleurs dragon bleu, faut pas oublier de mettre des fleurs dans le jardin, parce qu'il y a plein de gens à nourrir. Il n'y a pas que nous qui mangeons dans un jardin. On est nombreux à manger dans un jardin.
Du seigle.
Très bien.
Ricin. On dirait du hêtre. Non, mais je regarde la coque.
C'est magnifique, les graines. T'as vu, c'est magnifique.
Ça ressemble à des bogues de hêtre un peu.
C'est super beau.
Ça chasse les dents. Il faut le savoir.
Maintenant qu'on l'entend dire.
Parce qu'elles attirent les doryphores, elles ont une odeur particulière qui attire les odeurs et elles les empoisonnent.
C'est un très bon laxatif aussi, hein, pour ceux qui ont des problèmes.
Je ne m'y risquerai pas parce que...
Si on mange les légumes des jardins,
ça suffit,
de Cocopelli,
hein.
Ça suffit, hein, on n'a pas de problème. Hein. On apprend des tas de choses, alors. Donc je semerai dans nos patates.
Ouais.
D'accord.
Et puis aussi aubergines, ça va.
Je m'appelle Valérie. J'ai connu Cocopelli à l'époque où j'étais abonnée à Rustica, qui avait fait un article dessus. J'ai trouvé leur démarche extrêmement intéressante et salvatrice. Je n'étais pas tellement au courant de la partie dons de graines dans les pays pauvres. Je trouve ça assez formidable, d'ailleurs.
Et vous-même, vous avez un jardin potager ?
J'ai un jardin potager, oui, mais c'est beaucoup de travail.
Et vous avez toujours planté des semences anciennes ou...
Alors, j'ai
vous
toujours
êtes
planté des semences non hybrides. Ça, c'est sûr. Et à un moment donné, parce que je m'intéresse aux plantes en général, et je faisais partie d'une association qui s'appelait Ponema et qui œuvrait pour la préservation des graines de plantes sauvages, pas forcément en voie de disparition, mais qui disparaissent parce que on met du désherbant partout, dans les fossés, le long des voies ferrées, dans les champs. Il n'y a plus de coquelicots, il n'y a plus de niel des blés, il n'y a plus toutes ces choses-là. Et j'en ai implanté beaucoup dans les jardins, de la guimauve, de la pimprenelle, de la patience violon, j'en oublie. Et ça prend bien et j'encourage les gens à en faire de même.
Et là, aujourd'hui, vous avez trouvé des graines ?
Oui, j'ai trouvé quelques graines qui sont intéressantes, que je vais essayer dans mon potager. Et si ça prend bien, je les contacterai pour pouvoir servir de marraine et en produire davantage. Il faut que chacun fasse un petit peu sa part. Voilà.
Vous avez vos petits sachets avec vous ?
Oui.
Vous pouvez me les montrer ? Où ? Ah, ils sont bien rangés.
Alors, j'ai pris des haricots. Voilà. Des haricots mange-tout, nains, des soucis. Ce sont des fleurs, des soucis, de la nielle, des blés et du pavot. Qui sont trois fleurs, le souci médicinal, c'est le calendula hein, qu'on utilise pour les petites contusions, pour la cicatrisation, c'est très très bien. Ce sont des grosses marguerites orangées, très belles. La nielle des blés qu'on ne trouve plus dans les champs, et du pavot somnifère. Et après des haricots mange-tout, deux variétés de carottes et de la morelle donnant des fruits vermillons délicieux. Qui ont la taille d'une belle cerise et sont recouverts dans leur partie haute du calice éclaté et épineux. Ouais.
Cocopelli, ça a été créé le 28 avril 99 pour être exact, et ça a été créé suite à la suite de Terre de Semences, en fait, donc qui était une SARL créée aussi par Dominique. Et donc en fait, voilà, ça a été créé en Ardèche, voilà, au Bénin, ouais. Et ben, les origines, en fait, Cocopelli a été créé vraiment pour répondre à cette demande des anciennes variétés à être préservées face aux multinationales et face à l'uniformisation, pardon, de l'agriculture, quoi. Voilà, on a grandi en 15 ans, on est passé de quelques centaines d'adhérents au tout début à maintenant, on est à 8500 adhérents à peu près. Donc ça a pris quand même une ampleur assez rapidement parce qu'au début, on était quasiment les seuls à vraiment partir en chasse des anciennes variétés et partir en fait en lutte contre les multinationales. Donc on a vraiment été connus très rapidement pour ce combat-là, quoi. Donc on a ramené quand même pas mal de souches des États-Unis parce que Dominique, quand il a créé le concept, on va dire, de gardien de semences avec Cocopelli, Dominique a habité pas mal de temps aux États-Unis en fait dans sa jeunesse, et aux États-Unis il y a énormément de seed savers, il y a énormément de gens qui maintiennent dans leur ferme une énorme diversité de semences, une énorme biodiversité. Donc il y a beaucoup de souches à la base qu'on a ramené des États-Unis. Par exemple, un exemple qui est quand même assez flagrant, c'est la carotte de Guérande. La carotte de Guérande, nous on l'avait perdue. Et là, pour le coup, c'est vraiment une carotte qui est endémique à la Guérande. Et donc on l'avait perdu et on l'a ramené des États-Unis parce qu'aux États-Unis, ils l'avaient préservé, cette carotte. Alors en fait, on fonctionne de plusieurs manières. On a nos adhérents, nos 8500 adhérents qui sont pour la plupart des militants, donc qui se battent vraiment pour cette cause-là. Mais on a une base de 53 000 clients, je crois, sur notre site internet, donc qui sont des clients qui sont soit aussi militants mais qui ne sont pas adhérents, mais il y a aussi le jardinier lambda moyen qui a envie d'avoir des vraies variétés dans son jardin. Et on a beaucoup aussi de cette clientèle-là qui n'est pas forcément militant proprement dit, mais qui vient chez Cocopelli pour trouver, voilà, pour trouver le vrai goût, les vraies variétés. Donc on travaille aussi avec des maraîchers, mais moins. Enfin, les maraîchers, pour plusieurs raisons, parce qu'on fait beaucoup de petits packaging. Donc les maraîchers, ça les intéresse pas forcément, ils veulent plus de quantité. Après, les maraîchers avec qui on travaille refont souvent eux-mêmes leurs propres semences et viennent chercher la base de ces semences chez nous. Donc mettons qu'ils veulent faire de la courge bleue de Hongrie, par exemple, ils viennent prendre la base des semences chez nous, ils refont la semence d'année en année, et après ils ont la quantité qui leur suffit. Et nous, on pousse vraiment les maraîchers à aller dans cette voie-là. Donc on a quand même, je pourrais pas dire le nombre de maraîchers avec qui on travaille, ce sera assez simple de vérifier, mais on doit être aux alentours des 150 ou 200 maraîchers. Beaucoup de maraîchers ne travaillent pas avec nous parce qu'ils ont peur justement de se placer dans l'illégalité. Mais en fait, la législation s'applique sur la commercialisation de semences et de plants, et non de légumes. Ça veut dire qu'en fait, nous, on n'a pas le droit de vendre. Par contre, un maraîcher a le droit de nous acheter de la semence, oui. Pour produire lui-même, pour produire ses légumes. Par contre, il n'a pas le droit de produire de la semence et de commercialiser cette semence. Ça, non. Beaucoup de maraîchers, que ce soit en bio ou en conventionnel, utilisent des variétés qui sont des hybrides F1 dans un énorme pourcentage des cas. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on conseille à tout le monde. Ne demandez plus à votre maraîcher s'il fait des plants bio. Demandez-lui si c'est des hybrides F1 ou des anciennes variétés, ou du moins des variétés libres. Parce qu'on emploie le terme ancienne variété, alors que le vrai terme, il y a des anciennes variétés, mais le vrai terme, c'est variété libre et reproductible. Parce que ancienne variété, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire quelque chose dans le cas d'une ancienne variété, mais il y a énormément de variétés nouvelles. Nous, on a énormément de variétés nouvelles qui sont sélectionnées par nos producteurs et qui ne sont pas pour autant des hybrides F1, qui sont des nouvelles variétés, mais qui sont libres et reproductibles, qui appartiennent au domaine public. En France, en bio, c'est 95% des fruits et légumes qu'on consomme qui sont des hybrides F1. On prend le cas des melons, par exemple. Les melons, c'est 50% des semences de melons qui sont produites par Monsanto. Ça veut dire que quand on achète un melon bio, pour pas citer une marque, dans n'importe quel magasin bio, on a une chance sur deux, ça c'est assez simple à calculer, 50% une chance sur deux, d'acheter un melon qui vient de chez Monsanto. Les gens n'ont pas du tout envie d'entendre que ce qu'ils mangent dans leur magasin bio, c'est quasiment à 95%, et c'est pas quasiment, c'est à 95% issu de la grande distribution et issu des mêmes multinationales contre lesquelles on croit lutter en mangeant bio, c'est pas du tout le cas. Je dis pas qu'il faut pas manger bio, hein. Je dis qu'il faut changer totalement les méthodes de production d'alimentation bio, parce que... Et c'est pour ça, encore une fois, quand on va au marché du coin, quand on va voir son maraîcher préféré, on ne lui demande plus si ses légumes sont bio, on sait qu'ils sont bio, mais d'où viennent ces graines? Parce que les poivrons tout rouges, tout verts, tout oranges, tout brillants, tout lisses, qui n'ont pas une seule graine à l'intérieur, c'est des hybrides. Enfin, les tomates qu'on peut lancer contre un mur, elles sont bio, mais on peut quand même les lancer contre un mur sans qu'elles explosent, c'est des hybrides. Enfin, tout ça, c'est que des hybrides. Enfin, l'agriculture bio, quand elle a été amenée, c'était pour répondre à un problème de santé publique, à un problème de perte de biodiversité, de perte d'érosion des sols, enfin d'empoisonnement global de la biosphère. C'est pas pour fonctionner avec les mêmes variétés que la mafia de la semence nous propose depuis des années.
Ah, mais les voilà.
Enfin, cette variété...
Donc ils sont verts, avec des petits points rouges.
Anita et Patrick Paredes, parrain-marraine Cocopelli.
C'est mon jardin. Alors bon, au niveau culture, je laisse... C'est un principe d'un japonais. C'est-à-dire qu'on ne retourne pas la terre et on laisse pousser les herbes telles qu'elles sont. On fait que... couper l'herbe à l'endroit où on veut planter, on fait un trou, on plante et on sème. C'est pour ça que c'est un peu fouillis, mais bon, c'est comme ça que je fais.
Alors tout le long de la clôture, là, j'ai semé du maïs, qui pour moi, je le consomme pas, c'est du maïs normalement doux, là, qui se consomme, mais moi, bon, je le consomme pas, par contre, je m'en sers. Entre chaque pied, là, des endroits, on va le voir, j'ai semé des haricots dits tarbés. Ah, c'est vrai, on en voit un pied. Ça, ici, tout le long, entre chaque pied de maïs, il y a un grain de haricot tarbé, ce qui fait qu'après le haricot tarbé, le maïs me sert de tuteur, quoi. Voilà.
et ces semences-là, vous allez les récupérer et les renvoyer à Cocopelli, voilà. Ensuite, ces semences de maïs.
Toutes les semences de maïs, en principe, à la rentrée, là, en septembre, octobre, il y a Cocopelli qui vient à Toulouse à une foire bio qu'il y a. Et j'en profite pour leur ramener les graines de maïs. Et puis je fais aussi des fèves, mais les fèves, là, c'est fini. Hein. Les fèves, je les ai ramassées d'ailleurs. Ça, c'est les fèves qui sont destinées à Cocopelli. C'est ce qu'on appelle. Voilà. Il y a une semaine que je les ai ramassées.
Mmh. Voilà. On peut ouvrir ou pas ?
Oui.
On ouvre la cosse. On a des fèves qui sont en train de sécher.
Voilà. Alors, je les laisse dans la coque encore jusqu'à ce, pour que ce soit bien sec.
Alors, ça fait combien de temps que vous... Vous êtes parrain marraine pour Cocopelli et...
Ça fait 10 ans. En fait, il l'avait fait, je n'étais pas au courant. Il est très secret, puis un jour, il me dit, il faut absolument aller porter les graines. Je me demandais bien à qui. Moi, j'avais fait de jolis paquets. Et puis, c'était au salon Nature à Toulouse. Mmh. Donc, où il y a un stand de Cocopelli. Chaque année, on leur amène les maïs. D'ailleurs, les maïs, je ne leur ai pas tout amené parce que je leur ai chipé un épi. Ils sont tellement beaux. Son vert, pour faire des bouquets de fleurs séchées, je prélève un épi de maïs Cocopelli. Ils sont trop jolis. Et on utilise la vieille machine du grand-père qui égrène. Je vais vous montrer ça. Vous la montrez déjà ?
Non.
Bon, c'est un truc comme ça. Non, c'est... Hein, on met le truc comme ça et on tourne.
Ah,
elle rentre en tournant, ça l'égrène et la carouille ressort de dessous.
C'est avec ça qu'on égrène le maïs et moi je les mets en poche, je fais des poches d'un kilo et puis on met la référence dessus, on le ramène à Cocopelli.
Qu'est-ce qu'elles deviennent ces graines une fois que vous les rendez
après,
à Cocopelli?
Après, on les rend à Cocopelli et eux, ils les redispatchent dans d'autres petits sachets. Parce que, bon, en échange, là, ils nous donnent Ils nous donnent quelques sachets de graines comme cadeau, en échange. Et donc moi, je prends toujours des tournesols. Parce qu'ils ont des variétés de tournesols fleurs, hein, très très belles. Et ce sont les gâteaux des oiseaux. Et donc, ils espampounent, ça c'est un mot toulousain. Ils espampounent les graines un peu partout. Et l'année d'après, on a la surprise de voir, par exemple là, un tournesol, un autre là-bas. Et puis une année, on les a eus, ils dépassaient la maison. On a été obligé de mettre un crochet pour les attacher parce que c'est... Mais bon, lui est secret, je ne savais pas qu'il travaillait pour Cocopelli. J'ai découvert ce nom bien après.
Et alors, M. Paredes, comment vous aviez découvert Cocopelli?
Comment je l'ai découvert, Cocopelli, un peu par hasard, hein, parce que moi je lis beaucoup de revues de écolo, là, bio, tout ça, là. Et j'étais toujours quand même assez sensibilisé sur le fait qu'aujourd'hui, un paysan, il n'a plus le droit de garder une partie de sa récolte pour la ressemer l'année d'après. Donc j'ai dit, c'est quand même un peu fort de café, parce que moi, de toute ma vie, j'ai toujours gardé une ou deux... Les plus beaux plants, je les ai laissés monter en graines, et je prenais ces graines, l'année d'après, je les semais. Donc je vois pas pourquoi un paysan dont c'est le métier, il était obligé tous les ans de racheter des graines, alors qu'il a, c'est le premier producteur, lui. Et alors, bon, c'est comme ça que je suis tombé sur Cocopelli. Et voilà, puis je me suis abonné à Cocopelli et je leur parraine de variétés.
Et tu as planté les haricots que nous ont offert les Grecs?
Oui.
Voilà, les Grecs que nous avons rencontrés chez Cocopelli. Voilà, on a échangé, on a eu un petit sachet de graines. Bon, ils ressemblent beaucoup aux nôtres, mais ils sont Grecs, c'est pas pareil.
Oui, c'est des haricots qu'on consomme comme les haricots coco, c'est-à-dire pas tout à fait secs. Mais bon, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pareil, ils m'ont donné, je sais pas, une quinzaine de graines, hein. Je les ai plantées, mais si vous voulez, on va voir ce que ça donne. Mais il n'y a pas... Faut... Là, elles sont là, les feuilles. Oui.
Quels sont vos rapports avec les multinationales?
En fait, on n'a pas vraiment de rapport avec ces multinationales. De toute façon, si on est attaqué par des multinationales, ça viendra jamais directement d'eux. C'est impossible.
Ananda Guillet. Enfin,
vous imaginez si demain Monsanto, pour prendre le plus connu, attaquait Cocopelli, on soulèverait une révolution. Clairement, on aurait des dizaines de milliers de gens qui nous suivraient dans ce combat-là. Ils peuvent pas se permettre de faire ça. Enfin, c'est Ce serait tellement facile pour nous de lever tous ces gens contre Monsanto. Enfin, donc jamais on nous attaque. En fait, d'ailleurs, selon moi, encore une fois, on nous attaquera plus jamais directement. Plus jamais. C'est des petites pressions. C'est la répression des fraudes qui passe. Là, depuis qu'on est en Ariège, on les a eu deux fois déjà. Ça va être les RG que j'ai eu une fois ici, qui est venu nous demander si on vendait du cannabis sous les tables. Enfin, un truc complètement hallucinant, qui m'a appelé encore trois fois. Enfin, c'est des petites pressions comme ça qu'on nous met en permanence. On va venir chercher partout. On va pouvoir nous embêter. Mais jamais on nous attaquera de front, et surtout pas sur un front médiatique, comme ça a été fait avec le procès Beaumo vs Cocopelli, parce que là, enfin, ils savent très bien que pour nous, ça nous fait une pub d'enfer.
Et alors vous, est-ce que Cocopelli est une menace pour les multinationales?
Bien sûr, on est une menace. C'est pour ça qu'on subit ces pressions. On est une menace, non pas par notre chiffre d'affaires, ni par l'importance de notre activité, mais par la préservation de ces variétés. On est un peu le dernier des Mohicans sur ces variétés-là. Donc Cocopelli est une menace, comme toutes les petites associations qui font le même travail que nous, mais qui ne sont pas sur la scène médiatique. Nous, on est quand même pas mal sur la scène médiatique. Donc on est une menace parce qu'on sème des idées de liberté aussi dans la tête des gens, on sème des idées d'autonomie, et l'autonomie semencière, l'autonomie alimentaire, c'est vraiment c'est un blasphème total dans une société mercantile. Enfin, le constat, il est simple, qui contrôle la semence, contrôle le peuple. Les pays du tiers-monde, ou les pays les plus pauvres qui n'ont pas accès aux mêmes connaissances que nous, qui n'ont pas accès à de la documentation à Internet, aux livres, etc., ont perdu à vitesse grand V vraiment toute leur diversité. Ils sont complètement... nous aussi, hein, notre agriculture est contrôlée par les multinationales, mais eux, ils ont vraiment tout perdu. Donc c'est vraiment un marché qui est verrouillé, archi-verrouillé. On prend l'Inde, la Révolution verte a anéanti l'Inde de par l'anéantissement de leur variété... de leur variété ancestrale, en fait.
Alors, où est-ce qu'on est arrivé après quelques dizaines de minutes de route?
Et alors là, on est sur la commune de Camarade, on est à 8 km à peu près du Mazésil, et c'est là donc qu'on a acheté cette petite ferme, là où on est actuellement, qui va être le lieu de production de semences de Cucopelli pour la campagne Semences sans frontières, et puis la ferme école, là, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, voilà, on a le bâtiment proprement parlé, qui est un bâtiment tout en éco-construction en bois, donc qui est encore en cours de construction. Donc à nous, on habite là, Charlotte et moi-même, quand même un peu en camping. Et donc voilà, ici où on est, et puis la partie là, ça va être l'endroit collectif, en fait, de la ferme. Donc en fait, ici, on a une quinzaine d'hectares tout autour. On a beaucoup de forêt, on a 9 hectares de forêt en face. Et donc ici, il va y avoir des jardins de production. Là, on voit qu'on a commencé à monter une serre derrière. Là, quand vous êtes arrivé, vous avez sur la gauche une grande serre. Donc on va en mettre encore deux autres. Là, ici, on a une petite serre qui sert de... Voilà, on a notre petit jardin potager pour l'instant. Et puis ça va servir de pépinière là, à partir de l'année prochaine, quand on mettra les premiers porte-graines. Donc voilà, tout ça va être en culture. Ça va être ici vraiment le jardin de démonstration. Après, au-dessus, on a un verger de variétés anciennes qui produisent depuis l'année dernière déjà. Donc voilà.
Avant que l'orage arrive, on peut peut-être juste aller voir votre serre.
Ouais, pas de souci. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment fabuleux dans cette serre, parce que on fait un peu de graines de betterave ou quelques, on va laisser des laitues, des blettes monter en graines, mais là c'est vraiment pas
Des orties.
Oui, c'est des orties. Bah en fait, étonnamment ici. Enfin, il y a pas mal d'orties, mais assez loin de la ferme. Et sur la propriété, on n'a pas d'orties. Et nous, on travaille beaucoup avec les orties en purin, en paillage, etc. Et là, on a une super belle ortie dans la serre. Donc, on la laisse monter en graines. Puis tous les jours, on surveille qu'on ne loupe pas le stade de récolte. Et on va récolter toutes ces graines d'orties. Et on va s'en servir d'engrais vert. Et puis, on va faire une petite parcelle d'orties parce qu'on fonctionne énormément avec le purin d'ortie.
Donc, vous avez des fraises, il y a des plants de tomates là-bas?
Oui, là, il y a des salades. Il y a plein de tomates ici. Ça, c'est le nouveau mesclun Cucopelli qu'on a fait cette année. Donc, on en a semé. Voilà, donc tout ça, c'est un mesclun. Et puis là, on laisse de la cressonnette du Maroc monter en graines. C'est une des laitues, à ma connaissance, les plus résistantes à tout. Elles sont complètement incroyables. En fait, c'est des laitues à couper, donc on cueille les feuilles autour tout le temps. Et cette laitue, j'arrive à la maintenir. Donc là, on l'a laissée monter en graines pour faire de la graine, mais on peut la maintenir pendant 3-4 mois en place et cueillir tout le temps sans qu'elle monte à graines. Et on n'a pas besoin de l'arroser. Elle est résistante au froid, elle est résistante à la sécheresse. Elle ne se fait pas manger par les limaces alors que les autres se font dévorer. Voilà, super laitue. Cressonnette du Maroc. Du coup, on fait de la graine. On se rendra compte que quand on est dans un jardin qui est diversifié, comme ici, on n'a pas d'attaque massive de prédateurs, à part les limaces. Et la grosse limace orange là qui se balade, ça c'est le problème de l'Ariège, c'est les limaces. On est dans un pays assez humide, du coup il y a vraiment des invasions de limaces. Donc là, à ce stade du potager, elles font pas un grand désastre. Mais quand il y a des jeunes plants, on est obligé de passer tous les soirs à la lampe torche et on découpe les limaces au sécateur sur place. C'est pas très glamour, mais par contre ça fonctionne assez bien. Je vois ici en Ariège, on n'est pas dans des lieux de grande culture, c'est aussi pour ça qu'on est là, mais je vois les discussions que j'ai avec les agriculteurs, les voisins de la ferme, etc. Ils sont très intéressés par nos variétés. Donc ils n'iront jamais du jour au lendemain tout changer, évidemment, mais ils veulent essayer des petites parcelles de maïs anciens, multicolores, etc., pour voir les différences de rendement, pour voir si leur bêtes préfèrent le maïs ancien ou le maïs traditionnel, etc. Donc ils commencent à se rendre compte qu'ils se sont fait bananer quand même pendant 60 ans, là, et que, enfin, un peu plus de 60 ans, depuis les dernières guerres, enfin, les agriculteurs se sont fait totalement bananer parce que concrètement, les agriculteurs, c'est eux qui maintenaient ce début de chaîne alimentaire. Donc c'est eux qui avaient en fait la civilisation au creux de leurs mains parce que c'est eux qui nourrissaient. On a vraiment asservi les agriculteurs en premier parce que les agriculteurs, à la base, c'est eux qui maintiennent tout, quoi.
Donc un des projets qu'on a développé cette année, c'est l'installation d'un potager de 500 m² sur le toit de la clinique Pasteur en plein centre de Toulouse, parce qu'ils avaient le désir d'utiliser des légumes frais et locaux pour la cantine, pour les salariés et pour les patients. Et donc on a réalisé ce potager qu'on a finalisé la semaine dernière, donc maintenant il est en marche et on aura les premières récoltes d'ici septembre.
C'est vous qui allez vous en occuper ou c'est des personnes employées de la clinique Pasteur ?
Donc en fait, dans un but aussi social, ça sera des personnes en situation de handicap qui vont s'en occuper. On a planté plus de 150 variétés. Alors on a essentiellement planté des légumes en accord avec la cantine, car c'est eux qui ont choisi les espèces qui souhaitaient récolter. Par exemple pour la tomate, 40 variétés de tomates, ça va des tomates cerises à la grosse tomate cœur de bœuf. Et c'est très important pour les cuisiniers d'avoir des légumes de qualité, parce que quand, par exemple, on sert un repas dans le bâtiment des personnes qui ont le cancer, en fait, l'alimentation, c'est un des seuls liens qui les rattache avec le monde extérieur. Donc si on leur donne à manger quelque chose de bon, ça va leur procurer du plaisir. Et si on leur, enfin voilà, c'est, pour les cuisiniers, c'était vraiment très important d'avoir des légumes de qualité.
Alors Alexandre Belin, vous êtes ingénieur agronome. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, donné l'envie de lancer votre entreprise Macadam Gardens et de faire dans le légume ancien ?
Alors pendant mes études, j'ai toujours été attiré par l'agriculture urbaine, donc rapprocher les lieux de consommation des lieux de production. Et du coup, je me suis orienté vers les variétés anciennes parce que ce sont des variétés qui sont plus rustiques que les variétés commerciales. C'est-à-dire qu'elles résistent mieux à des climats qui changent. Et les variétés, les légumes qu'on récolte ont beaucoup plus de goût que les variétés qu'on trouve dans le commerce. Alors pour commencer, j'ai rencontré Jean-Marc Guillet, qui est un des responsables de Cocopelli. Je lui ai expliqué notre projet, qui était de diffuser largement la biodiversité à travers notre site internet en vendant des plants de légumes de variétés anciennes. Il a tout de suite accroché à notre projet et il nous a donné un stock de semences pour nous lancer, en nous expliquant comment récolter nos graines et pour ensuite devenir indépendant au niveau des graines et des semences.
Ça ne doit pas être courant dans le monde des semenciers.
Non, c'est pas courant, mais c'est ce qu'on cherche aussi, c'est à garder notre indépendance. Et puis à côté de ça, on fait du maraîchage et c'est très important dans le maraîchage d'avoir beaucoup de biodiversité. Parce que quand on s'attaque à un terrain qui n'a pas été cultivé pendant 5 ans, si on fait de la monoculture, on va être tout de suite attaqué par un grand nombre de voyageurs, alors que si on plante un grand nombre de variétés, un grand nombre d'espèces, on va pouvoir limiter les dégâts et petit à petit installer un équilibre dans l'exploitation.
Donc là, il y a cette grande serre.
À l'extérieur, on a 5000 m² qu'on essaye d'exploiter en totalité. Donc on essaye d'appliquer plusieurs principes, notamment de permaculture et d'agroécologie. Donc l'exploitation à la base c'était une pépinière, donc c'est pour ça que vous avez ces bacs devant vous. On a essayé de les recultiver en prenant de la terre, en ramenant de la terre, en faisant des buttes avec du compost et du paillage. Donc faut savoir que sur cette zone il y a 3 entreprises, une entreprise de distillation et une scierie. Et on essaye de réutiliser tous les déchets qui sont issus de ces 2 entreprises. Donc avec les déchets de distillation, on fait du compost. Et avec les déchets de la scierie, on fait du paillage. Donc voilà.
Donc vous commercialisez des plants et des produits finis, des légumes finis alors ?
Voilà. Les plants, c'est plutôt à destination des citadins via notre site internet. Et les légumes finis, c'est pour les restaurants gastronomiques. Parce qu'en fait, là, on se rend compte qu'il y a vraiment une très forte demande sur ces variétés anciennes parce que le goût est vraiment différent des variétés standards qu'on peut trouver dans le commerce. Il y a vraiment une diversité de goûts que les restaurants gastronomiques veulent et cherchent. Et nous, on est capable de les fournir en produits frais, parce que la fraîcheur, ça compte aussi beaucoup. Et on fait de la culture en pleine terre, et c'est une chose qui est en train de disparaître petit à petit. Le maraîchage bio en pleine terre autour de Toulouse, je sais pas, il doit y avoir 5 ou 6 exploitations qui font du maraîchage bio vraiment à la périphérie de Toulouse. Après, les grosses exploitations bio, elles sont à 50 km. Donc en ce moment, on a des fraises tout au fond. C'est pas des variétés anciennes, parce que sur la fraise, c'est très difficile de trouver des variétés anciennes, mais on les fait en pleine terre, en bio, et vraiment, ça a vraiment rien à voir avec les fraises que vous pouvez trouver dans le commerce, quoi. Elles sont plus sucrées, elles se tiennent plus longtemps.
On les distingue, en fait, à travers des herbes folles. Vous laissez tout pousser autour, en fait.
Je laisse pas vraiment tout pousser, je passe la tondeuse pour couper les mauvaises herbes, mais je trouve que c'est important de laisser les mauvaises herbes parce que ça fait une sorte de barrière entre mes fraises et les limaces, quoi. Tout est une question d'équilibre. Si on arrive sur une prairie, qu'on installe des bâches de fraises et qu'on met du Roundup pour écraser toutes les mauvaises herbes, forcément on va avoir des insectes qui vont venir sur les fraises et nous les manger. Si on laisse la prairie qui était là à la base, eh ben, le système est équilibré et du coup on a moins de dégâts sur nos cultures. Quand moi je récolte mes fraises, on n'a même pas 5% de perte.
Et alors, est-ce que c'est légal de vendre des plants et de vendre des produits finis, de variétés anciennes ?
Eh ben, au niveau des semences, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ce que je fais c'est légal, mais je sais que je suis verbalisable. S'il y a quelqu'un qui vient et qui me dit que c'est illégal ce que je fais, je me tournerai vers l'association Cocopelli qui, je sais, pourra me défendre. J'aurais posé la question et ils m'ont dit que si j'avais un problème, je pouvais me tourner vers eux et qu'ils avaient des avocats compétents pour me défendre.
Pourquoi est-ce que les graines sont homologuées par l'État et est-ce que finalement l'activité de Cocopelli, elle est légale ?
Vaste sujet, très dur d'y répondre sans dire de bêtises parce que c'est très compliqué. Mais donc le constat il est assez simple. Par contre, donc on a le GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences, qui a été créé dans les années 41 sous Pétain. Et donc depuis on a un catalogue officiel, le catalogue officiel du GNIS, et chaque variété qui peut être distribuée doit être inscrite sur ce catalogue. Donc nous on se refuse évidemment à cette inscription, ce qui place Cocopelli dans l'illégalité vis-à-vis de la législation française et maintenant européenne, vu que l'Europe suit cette ligne de conduite. Du coup, l'activité de Cocopelli est illégale par la non-inscription de ces variétés au catalogue, mais on est une association et on fait un travail de sauvegarde d'un patrimoine et on ne fait pas de commerce proprement dit, on ne fait pas de bénéfices. On est une association, loi 1901, à but non lucratif. Donc en fait, Cocopelli, c'est un peu la patate chaude, parce que voilà, on n'est pas vraiment attaquable. On voit que de toute façon, quand on nous attaque, on l'a bien vu avec le dernier procès en date de Beaumont, ça nous fait une pub pas possible, les adhésions pleuvent, les communiqués pleuvent sur Internet. Donc c'est vraiment Cocopelli, c'est la patate chaude, parce qu'on est illégal, mais on ne peut pas nous interdire de citer, parce qu'on est encore là, quoi. Donc après, pour vous parler de la législation de façon correcte, il faudrait voir ça avec notre avocate, avec Blanche Magarinos-Rey, qui est vraiment hyper calée sur la législation et qui a tout en tête, parce que moi je dirais des bêtises, enfin, c'est extrêmement complexe.
La législation rend cette inscription obligatoire parce que cette inscription finalement est une autorisation préalable de mise sur le marché, hein, une procédure d'AMM comme on dit, qui ressemble fort à celle qui est en vigueur pour les pesticides ou pour les médicaments ou même pour les OGM. Donc les semences depuis les années 60 sont traitées pratiquement comme des substances dangereuses, j'ai envie de dire, ce qui n'est évidemment pas le cas avec les semences, mais le législateur, en fait, il avait comme objectif dans les années 60 de transformer l'agriculture et donc de transformer l'agriculture pour la rendre plus moderne, pour la rendre plus productive, pour permettre une mécanisation des récoltes, pour permettre aussi une standardisation de la production. Et pour ce faire, eh bien, différentes mesures ont été prises. En particulier, on connaît bien celle du remembrement agricole, des aides de la PAC, etc. Mais aussi, parmi toute cette panoplie de mesures, eh bien, il était prévu de remplacer tout le lot de semences qui étaient utilisées traditionnellement par les paysans pour que eh bien, les agriculteurs de la France et de l'Europe se mettent à utiliser des semences sélectionnées par des techniques d'agronomie modernes, réputée donc plus productive.
Que dit l'Europe sur la biodiversité, sachant que le combat de Cocopelli est beaucoup autour de ces thèmes-là, de l'alimentation, de la biodiversité, de la sécurité alimentaire?
Alors, l'Europe, sur la biodiversité, elle a une position très ambiguë, parce que on a différents textes donc, qui proclament très fort la nécessité de conserver la biodiversité, et dans le même temps, eh bien, elle ne met pas en cohérence ses engagements avec des textes, des pans législatifs entiers qui sont extrêmement défavorables pour la biodiversité. Alors, il y a un processus de réforme de la législation sur le commerce des semences qui est en cours depuis 2008, et la Commission européenne a publié une proposition de règlement nouveau au mois de mai de l'année dernière, qui vise à refondre finalement ce système que j'évoquais tout à l'heure et qui date des années 60. Et puis on a été très déçus par la proposition qui finalement fait mine de se préoccuper de la question. Mais quand on regarde dans les détails des dispositions législatives, eh bien, on s'aperçoit que les quelques toutes petites exceptions ou dérogations qui ont été ouvertes dans le texte pour les variétés qu'on appelle anciennes sont strictement impraticables. Donc, par exemple, on avait dans le texte de la Commission une exception qui concernait les variétés, ce que la Commission appelle les variétés avec description officiellement reconnue, qui était donc une catégorie qui permettait d'inscrire des variétés là au catalogue pour le coup, mais selon des modalités assouplies. Mais il y avait une condition dans le texte très difficile à remplir, c'est que toutes ces variétés devaient être produites dans leur région d'origine. Voilà, alors quand vous conservez une collection de plusieurs milliers de variétés, si vous êtes obligé de produire chaque variété dans sa région d'origine et donc d'avoir un mainteneur, ça veut dire un agriculteur multiplicateur, qui va planter et puis multiplier les semences dans chaque région d'origine. Alors parfois ça peut être la région d'origine, un pays en entier, mais parfois ça peut être une région ou simplement une toute petite localité. Ben, c'est pas possible financièrement. Donc ça veut dire que si vous devez produire toutes ces variétés dans leur région d'origine, et ben ma foi, vous conservez peut-être une dizaine de variétés, pas plus.
Et comment s'appelle le lobby de l'industrie semencière ?
Il s'appelle l'ESA, European Seed Association, et donc qui est basé à Bruxelles et qui a ses entrées un peu partout au sein des institutions européennes, on le sait, qui s'est même permis d'ailleurs dans le cadre de la procédure qu'on avait lancée devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui s'est permis d'intervenir alors qu'ils n'étaient pas partis à la procédure, d'écrire une longue lettre aux magistrats en leur expliquant qu'ils n'étaient pas d'accord avec la position qu'avait prise l'avocat général, qui était de notre côté, hein, qui préconisait l'invalidation de certaines dispositions clés de la législation européenne. Et donc, je pense qu'ils se croient assez tout-puissants. Et donc, ils interviennent ici et là. Dès qu'on prend une position, ils réagissent avec un communiqué de presse qu'ils envoient à tous les députés. Ils les invitent régulièrement au restaurant, à des événements, etc. Et ils présentent leur position régulièrement auprès des députés. Ils sont très organisés. Très organisés. Et puis, aussi avec une confiance très forte en leur pouvoir de persuasion.
Qu'est-ce que vous pensez, alors vous, en tant que particulier qui cultivez votre jardin, qui vous alimentez avec votre production, qu'est-ce que vous pensez justement de la législation actuelle autour des semences?
Ah ben, c'est grave, c'est même, je dirais que c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Parce que si jamais, bon déjà, je sais pas si vous voyez tous ces bidons là, c'est pour faire du purée d'ortie et de... et d'autres plantes. Bon, normalement, c'est pas interdit de le faire, mais c'est interdit de donner la recette, entre guillemets, et d'en faire la publicité. Déjà rien que ça. Alors, c'est fou, mais c'est comme ça. Et après, ce qui est gravissime au niveau des graines, c'est que si on continue comme ça, dans deux ou trois générations, on sera obligé, si on veut avoir quelque chose au jardin, d'aller chez un semencier agréé. Donc on perd l'adaptabilité au terroir, au climat, à beaucoup de choses. Et puis bon, les tomates d'aujourd'hui, celles que vous avez dans le commerce, c'est des tomates qui ont une peau assez épaisse, parce qu'il faut pouvoir la ramasser encore pas mûre et qu'elle résiste pendant 15 jours, 3 semaines au transport, aux différentes manipulations. Mais bon, je ne sais pas si vous avez mangé beaucoup, mais ça de tomates que le nom. Hein. Ça pue le goût de la tomate. Quoi. Et pour le reste, c'est pareil. Hein. On n'a que des fruits, enfin, des légumes calibrés, il faut qu'ils soient telle grosseur, telle longueur, sinon c'est pas ça, la nature c'est pas ça. La nature, il y a 4 ou 5 pieds de tomates, c'est les mêmes, c'est la même variété, il y en a, il faut en mettre, d'autres elles sont encore en masse comme ça. Peut-être après, en septembre, celle-là elle va se mettre à pousser, alors que les autres auront fini de donner. La nature, c'est la variété, c'est comme chez les humains.
C'est la richesse.
La richesse, c'est bien de la diversité, pas de l'uniformité.
Merci à l'équipe de Cocopélie et à ses adhérents. Merci à Ananda Guillet, Blanche Magarinosseret, Anita et Patrick Paredes, Alexandre Belin et Damien Cadéi. C'était Sur les Docks, attachée d'émission Christine Bernard, Anne-Vanessa Prévost, mixage Alain Joubert, réalisation Guillaume Baldi, un documentaire de Clotilde Gatine.